France Inter.
Il est 5h12, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Le 18 mars, un premier cas de choléra a été confirmé à Mayotte et depuis, d'autres malades sont régulièrement détectés.
Effectivement Mathilde, 37 cas de choléra ont été identifiés selon un nouveau bilan de l'Agence régionale de santé communiqué à l'AFP. Cette maladie, dont les symptômes s'apparentent à ceux d'une forte gastro-entérite, se propage par contamination oro-fécale liée à des problèmes d'assainissement d'eau. À Mayotte, un tiers des habitants n'a pas accès à l'eau potable et les populations des Comores qui arrivent à Mayotte importent beaucoup cette bactérie. Face à cette situation, hier mercredi, le ministre de la Santé Frédéric Valletoux a annoncé se rendre les 9 et 10 mai prochains à Mayotte pour apporter son soutien aux équipes sur place et rencontrer les autorités sanitaires locales. Le ministre a par ailleurs annoncé l'arrivée de 18 nouveaux médecins et infirmiers réservistes en renfort sur l'île pour faire face à la hausse des cas de choléra. Ceux-ci viennent s'ajouter aux 49 réservistes déjà mobilisés sur place. Selon le ministre, la situation est néanmoins sous contrôle. Quant à la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, elle est attendue aujourd'hui dans l'archipel et ce jusqu'à demain, vendredi. En Guadeloupe maintenant, le maire des Abîmes, Éric Jalles, Jalton demande au gouvernement la levée du couvre-feu pour les mineurs non accompagnés dans deux quartiers de sa commune, dans une lettre adressée à Gérald Darmanin, datée du 29 avril dernier. Plus de précisions avec Pascal Pétrine de Guadeloupe La Première.
Dans cette lettre, Éric Jalton interroge le ministre de l'Intérieur sur le pourquoi d'une telle décision de couvre-feu pour les mineurs de plus de 15 ans dès 20 heures dans ces deux quartiers des Abîmes. Des quartiers qui, selon lui, ne présenteraient pas de faits de délinquance plus importants qu'ailleurs. Et l'édile d'interroger le ministre sur l'absence de renforts de police de proximité et de médiateurs sociaux de terrain et du choix des horaires retenus. Autre questionnement, l'âge des concernés. La limite des moins de 17 ans aurait été plus approprié au vu des statistiques établies en matière de délinquance. Quant au créneau horaire, 23 heures serait plus approprié compte tenu que 60% des actes de délinquance se déroulent hors du créneau choisi par le ministre. Éric Jalton demande au ministre de mettre fin à cette expérimentation et privilégier des dispositifs préventifs et répressifs ciblés concernant la délinquance et la criminalité et de conclure sur la question du maintien durable ou non du déploiement exceptionnel de forces de l'ordre dans le contexte du couvre-feu qui devrait mécaniquement certes faire diminuer le nombre de délits dans le secteur concerné.
En Martinique, la collectivité territoriale met en vente des biens immobiliers dont elle n'a plus l'utilité et qu'elle ne veut plus entretenir à perte, comme l'explique le conseiller Alexandre Ventadour au micro de Corinne Jean-Joseph de Martinique La Première.
Le foncier, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas figé dans le temps. Et là, on met en vente des biens dont on ne fait rien. Donc là, on est à l'Assemblée, en centre-ville. Il y a quelques très vieux bâtiments alentours qui sont inoccupés depuis plus d'une vingtaine d'années. Moi, il me semble normal qu'ils vivent, en fait, qu'ils soient repris par des gens qui en auront l'utilité, qui vont y développer des projets, des activités économique. Donc voilà, c'est 11 biens auxquels on n'a pas donné de poursuite d'activité. Quand on ne peut pas faire par nous-mêmes et qu'un bien a un potentiel à être exploité par d'autres, voilà, on le met en vente tout simplement.
Enfin Mathilde, en Nouvelle-Calédonie, une convention a été signée mardi dernier entre les communes de Païta, Nouméa, Mondor, Doumbéa et l'Université de la Nouvelle-Calédonie afin de protéger les zones de mangroves du Grand Nouméa par la création d'un comité de gestion chargé de fédérer l'action de l'ensemble des partenaires concernés, ce dont se félicite Bastien Morvan, directeur adjoint du développement durable à la province sud, au micro de Mejiko Peteissi de Nouvelle-Calédonie La Première.
La mangrove constitue un écosystème qui rend service aux vivants. Il faut avoir en tête qu'elle nous permet de nous protéger contre la houle en cas de cyclone ou voire même de tsunami. Elle constitue également un habitat pour de nombreuses espèces d'animaux. C'est une zone dans laquelle l'être humain peut aller pêcher, donc subvenir à ses besoins, répondre à une économie locale. Et puis plus généralement, il faut savoir que la mangrove est un puits carbone très important et permet finalement à notre niveau de lutter contre le changement climatique. Donc c'est un écosystème qui est précieux, dont il faut prendre soin. C'est l'objet de cet accord et nous a amenés tous dans le même sens dans ce but.
Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée.
À vous aussi José-Manuel Lamarque.